Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Lorsque le 29 octobre 1949, le quotidien L'Équipe titre « Volant vers la victoire, il rencontre la mort », cela témoigne que Marcel Cerdan ne fut pas seulement fauché en plein vol, mais en pleine gloire. Le tragique accident d'avion qui participe de sa légende et la célèbre idylle qu'il vécut avec la non moins célèbre Édith Piaf ne sont certainement pas les seules raisons de l'incroyable popularité et longévité du mythe Marcel Cerdan. Sa courte vie se mêle à l'histoire de France. Elle fait le lien entre une Troisième République vieillissante et une après-guerre en route vers la modernité. Cerdan réunit Paris et la France d'outre-mer, comme on le dit à l'époque, celle de l'Algérie où il naît en 1916 et celle du Maroc où il grandit dans les quartiers populaires de Casablanca. Il incarne le mérite et l'ascension sociale du pied noir, parti de rien, qui finira couvert de gloire sur les deux continents. Poussé par son père, le petit Marcelin, son vrai prénom à l'état civil, boxe dès l'enfance comme toute la fratrie. Pourtant, se battre, Marcel n'aime pas vraiment ça. Il préfère traîner avec les copains, jouer au foot dans les rues du quartier, car on le sait moins, mais Marcel Cerdan était un sportif entier. Et ses premières amours, c'est vers le foot qu'il les a tournées. Le foot qu'il pratiquera toute sa vie, jusque dans l'équipe nationale du Maroc.
Mais non.
Brillant au combat, encouragé, forcé, disent certains, par son père, Marcel ne cesse de vaincre. Après s'être fait un petit nom en Afrique du Nord, c'est à Paris qu'il monte sur les rings à partir de 1937 et il y devient célèbre. La guerre ralentit un temps son inévitable ascension vers les sommets qu'il finira par atteindre, mais paradoxalement, elle contribue à créer sa légende. En septembre 1942, dans l'enceinte du tristement célèbre Veldiv, qui, au-delà d'avoir été le théâtre quelques semaines auparavant seulement de la rafle de plus de 13 000 juifs, est avant tout une enceinte sportive. Cerdan affronte le tenant du titre européen José Ferrer. L'Espagnol, croix gammée frappée sur son peignoir, monte sur le ring en adressant un salut fasciste. Marcel le terrasse, bien sûr. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, à peine plus d'une minute. La foule exulte et se prend à chanter la Marseillaise, fait inenvisageable dans ce Paris sous occupation nazie. Cerdan refuse de faire le salut nazi tout autant qu'il refuse les agapes prévues par les autorités après le match. C'est surtout cela, Marcel Cerdan. Cette droiture qui participe à faire de lui l'idole de la France blessée d'après-guerre. Il est la force et la loyauté, celui qui permet d'oublier les humiliations de l'occupation et les turpitudes de la collaboration. Sa célébrité est un exutoire, l'incarnation d'un honneur retrouvé. Et pour être célèbre, il l'est. Songez, Mathieu, que lorsqu'en 1948, Marcel Cerdan remporte le titre de champion du monde contre Tony Zale aux États-Unis, en France, les ventes d'appareils de radio augmentent avant le jour J. Et cette nuit-là, Électricité de France enregistre un pic de consommation jamais vu auparavant. Comme si chaque Français était collé derrière son poste.
Comme l'histoire de Secret d'Histoire, EDF communique sur ses chiffres. Ça monte en flèche, Secret d'Histoire.
Ne me comparez pas, s'il vous plaît, à ce géant.
Je ne vous souhaite pas la même fin.
À cette époque, le sport est devenu l'affaire des masses. Ce qui n'était encore qu'activité de bourgeois oisif au début du siècle devient, dans les années 20 et plus encore dans les années 30, la chose du peuple. L'émancipation prolétarienne passe aussi par le sport et Léo Lagrange, fameux secrétaire d'État du Front populaire, développe les stades, les piscines, les gymnases à travers le pays. Le sport est pratiqué par tous et devient un spectacle qui attire les foules. Derrière le cyclisme et le football, eh bien, la boxe connaît un immense engouement. Cerdan est adulé car il est le meilleur. D'une rapidité époustouflante, enchaînant les uppercuts avec fougue, faisant vibrer les salles, il prend cette célébrité et la ferveur qui l'entoure pour ce qu'elles sont, une faveur. Sans vanité, il veut honorer son public et le pays qu'il représente. Ce qui aide aussi à son succès, c'est sa gentillesse. Derrière son terrorisant surnom de bombardier marocain, il est un homme doux et aimable, même avec ses adversaires. En témoigne son combat en 1938 contre Umri, qui a envoyé au tapis en 12 secondes, reste inanimé, groggy et quasi comateux pendant des heures. Marcel, inquiet, se tiendra à son chevet toute une partie de la nuit. Gentil mais quasi imbattable, 106 victoires pour seulement 4 défaites au cours de sa vie. Champion de France pour la première fois en 1938, champion d'Europe en 39, 42, 47, puis 48, et le premier non-américain à remporter la même année le titre de champion du monde des poids moyens. Cette Amérique où il triomphe et dont il rentrera accueilli en héros national est aussi le lieu où naît son plus bel amour. Et le mythe Cerdan s'est également construit là-dessus. Il a déjà brièvement rencontré Edith Piaf dans un cabaret parisien en 1946, mais c'est en 1948, après un concert à Broadway, qu'ils deviennent amants et amoureux fous, étreints d'une passion irraisonnée. Cet amour fulgurant est d'abord vécu discrètement, car monsieur est marié, père de famille, famille qu'il aime et essaye malgré tout de préserver. Pourtant, rapidement, tout le monde est au courant, la France entière même. Edith et Marcel font rêver, font jazzer aussi. Hein.
Jazzer. Oui. Jazzer ou jazzer, bah, qu'est-ce que, d'après vous?
À vous de choisir, ils font jazzer et jazzer, parce que j'aime bien cette idée. On dit qu'elle l'envahit, le déconcentre, mais il s'aime, que voulez-vous? C'est ça l'amour, Mathieu.
On n'arrête pas l'amour, Stéphane.
Or, il faut souvent du drame pour parfaire un mythe, et le drame advient. En cette fin d'année 1949, Marcel Cerdan est prêt à reconquérir le titre mondial en combattant Jake LaMotta au Madison Square Garden. Mais le match n'aura jamais lieu. Cerdan a prévu de se rendre à New York en bateau, mais le 28 octobre 1949, c'est Edith Piaf qui le convainc de prendre l'avion. Elle veut le retrouver au plus vite. Ils trépignent de passer du temps ensemble. Marcel n'atteindra pas New York et elle ne se remettra jamais, dit-on, de cette culpabilité. L'avion dans lequel le champion a pris place s'écrase contre le Pico Redondo sur l'archipel des Açores. Aucun survivant. Marcel Cerdan sera identifié grâce aux deux montres qu'il portait. L'une offerte par Edith, réglée à l'heure de New York, l'autre à l'heure de la France. Le soir même, la chanteuse trouve le courage de se produire comme prévu sur scène. Elle y interprète l'hymne à l'amour, chanson qu'elle avait écrite pour lui.
Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, et moi je mourrai aussi.
Meurtri, Piaf s'effondre avant la fin du spectacle. En France et au Maroc, c'est un drame qui se vit aussi. 70 000 personnes suivent le cercueil à Casablanca avant que des centaines d'articles, de livres et de légendes ne continuent de forger le mythe Marcel Cerdan.
Europe 1, historiquement vôtre.